Je n'étais pas du tout une proustienne confirmée. J'avais juste lu Albertine disparue. Donc vous voyez, c'est n'importe quoi parce que c'est pas du tout dans l'ordre. Albertine disparue, c'est le sixième volume, si je ne me trompe pas. Donc à l'époque, j'avais même pas compris que La recherche du temps perdu, ce n'était pas par là qu'il fallait commencer. Mais quoi qu'il en soit, j'avais été totalement enthousiasmée quand même par cette première lecture, même si elle était anarchique. Ça m'avait beaucoup, beaucoup, enfin, pas faire rire, mais ça m'avait fait sourire en tout cas. J'avais trouvé que c'était très drôle et j'avais eu cette sensation qu'ont eu beaucoup de gens à la lecture de Proust, c'est-à-dire cette sensation que quelqu'un arrive à rentrer dans votre cerveau et à comprendre et à décortiquer des choses dont vous y aviez eu vaguement l'intuition et voilà, qui présente avec des images, un bain de sensations extraordinaire. Donc, plus je suis rentrée dans son œuvre, de toute façon, plus j'ai été comme Céleste, totalement séduite. Alors donc, c'est pas dans un premier temps Marcel qui m'a vraiment happée, c'est quand même la belle voix de Céleste que j'ai découvert pendant l'été 2019 sur les ondes d'une célèbre radio. Donc, il y avait toute une série de retranscriptions des entretiens qu'elle a donnés dans les années 70. Et voilà, cette voix, c'est vrai qu'elle m'a complètement ensorcelée, intriguée. Elle venait d'un milieu très modeste. Elle était originaire de la Lozère, un petit village qui s'appelle Auxillac. Et à l'écouter, en fait, elle a vraiment une belle élocution, une belle langue. Elle utilise des expressions imagées, assez surprenantes, mais voilà, que je trouve très littéraire finalement. Et de temps en temps, il y a quand même un aspect très populaire qui transparaît dans sa manière de parler, mais c'est vraiment ce mélange intrigant entre quelque chose de populaire et quelque chose de très littéraire qui m'a impressionnée. Et bien sûr aussi dans ses témoignages, qu'il y a de très étrange, c'est que objectivement, elle décrit une vie qui devait être pas très folichonne, une vie de reclus, et malgré tout, à l'entendre, on dirait que c'est les 10 meilleures années de sa vie. Céleste, c'est une bonne complètement atypique. Marcel, c'est un maître aussi atypique. Il était prévenu qu'elle ne savait rien faire parce qu'il le savait grâce à son mari qui était son chauffeur. Et je pense qu'il a certainement dû déceler en elle un humour, un bon sens, une intelligence et aussi, il le dit lui-même, un génie littéraire, bien qu'elle n'ait jamais écrit. Rien écrit de sa vie, mais la manière de parler, en fait, pour Proust, enfin, Proust a été complètement séduit par la manière de parler de Céleste. Donc c'est aussi pour ça que finalement, à un moment donné, elle a été sa secrétaire, sa gouvernante, parce qu'il lui faisait confiance au final. Et en fait, quand une envie d'histoire me vient, j'ai un peu l'impression d'avoir des pierres précieuses, en fait. C'est comme si j'étais en présence d'un très beau matériau, mais à un moment donné, je fais comme le travail d'un sculpteur sur pierre, je taille dedans impitoyablement, j'enlève tout ce qui ralentit le récit, j'enlève tout ce que je ne peux pas expliquer, même parfois c'est des choses intéressantes, mais si je n'arrive pas à les rendre crédibles, j'enlève. Donc je taille dans la vie de Céleste, dans la vie de Marcel, pour essayer de garder juste ce qui m'a plu, l'essentiel, et pour aboutir à un espèce de squelette, voilà, quelque chose de très beau, mais qui est quand même brut. Et après, le jeu, c'est bien sûr de rajouter de la chair à tout ça. Donc, je me glisse dans leur peau et je fais un petit peu comme ce qui m'a plu finalement dans l'œuvre de Marcel Proust, c'est-à-dire rajouter des sensations. Je pense que c'est comme ça qu'on peut happer un lecteur, c'est d'essayer de rendre compte quand même cette atmosphère très particulière que ça devait être. D'être dans le Paris de 1913, puis le Paris de la guerre de 14-18, où on l'a oublié. Je vous avoue que moi-même, je l'ai pas oublié. En fait, pour tout dire, je l'ai appris en me documentant. Paris avait été quand même bien bombardé par les obus allemands. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient mis sur les vitrines des magasins plein de protections, des espèces de grands scotch comme ça, pour éviter que tout tombe par terre. Bref. La guerre était à la fois loin et très proche. Donc, la nuit, Paris était complètement plongé dans le noir. Marcel travaillait uniquement à la tombée de la nuit. Comme il était asthmatique, Il ne supportait pas qu'on soulève le moindre grain de poussière, donc certainement que l'appartement devait sentir le renfermer. Donc voilà, j'ai essayé de rassembler comme ça tous les éléments, les odeurs de médicaments, la poussière, le bruit des obus, l'odeur du café, tout plein d'éléments pour essayer de faire comprendre ce qu'avait pu vivre Céleste et pourquoi, selon elle, c'était vraiment des années délicieuses, les 10 meilleures années de sa vie. J'ai eu la sensation d'être en présence de deux pépites, c'est qu'ils sont tellement étonnants tous les deux, tellement une personnalité complètement atypique l'un et l'autre. Et bon, scénaristiquement parlant, d'avoir un duo chaud, froid, blanc, noir, c'est un délice en fait. Et de savoir comment est-ce qu'ils vont interagir ensemble, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire alors qu'ils viennent d'une culture, d'un milieu, d'une classe sociale complètement différente. C'était ça qui crée une émulsion très étrange, mais qui, étonnamment, fonctionne. Puisque, même si à un moment donné, voilà, Céleste a fait un espèce de burn-out, pour utiliser des mots à la mode, et ça, je ne l'ai pas inventé, hein, on a vraiment des traces où on sait qu'elle a voulu partir du service de Marcel. Preuve que ce n'était pas aussi idyllique que ce qu'elle prétend dans les témoignages. Donc voilà, je collecte ces petites sources très étonnantes et j'essaye de les assembler ensemble pour quand même donner un sens, parce que moi, forcément, il y a des thématiques qui m'intéressent plus que d'autres, donc j'ai eu tendance à garder les anecdotes, voilà, qui allaient plus dans le sens de ce que je voulais raconter, c'est-à-dire la violence des différences de classe sociale, les processus de création. Et pour moi, c'était important aussi, justement, de les mettre tous les deux sur un pied d'égalité, c'est-à-dire de ne pas avoir de jugement de valeur. L'imaginaire de la bonne, pour moi, avait autant d'importance et autant de valeur que l'imaginaire de l'écrivain. Donc c'est là-dessus où il a fallu aussi que j'invente un petit peu, parce que dans les entretiens, forcément, elle est en représentation. Donc je suis allée un peu plus loin, c'est vrai, dans ses cauchemars, dans ses angoisses, dans son imaginaire. Et ça, j'avoue que c'est mon interprétation. Les deux, finalement, m'ont vraiment intéressée. Parce que forcément, Marcel Proust, ce n'est pas dans le côté génie, bien sûr, que je me suis, que je me suis identifiée. Mais tout simplement, ça m'a vraiment intéressée. Ça, je vais plus en parler dans le tome 2, mais comment il a pris en charge son œuvre. C'est-à-dire qu'il était persuadé de son génie. A raison, il ne faisait pas de fausse modestie, et Céleste rapporte des propos qu'il a eus d'ailleurs, il a dit « quand on sait dire, on peut tout dire, et Marcel Proust sait dire ». Donc vous remarquerez qu'il parlait de lui à la troisième personne comme Alain Delon, ce que je trouve attachant encore une fois, bon, voilà, je trouve ça drôle, mais je pense qu'il avait quand même un second degré, et, à mon avis ce n'est pas dénué d'humour quand il disait ça. Mais voilà, c'est vrai qu'en tant que simple autrice de bande dessinée, je trouve que c'est très intéressant les à côté aussi de la création. Donc les relations avec son éditeur m'ont beaucoup intéressée. Et comme c'était un graphomane, il n'arrivait pas à maîtriser son flot de lettres qu'il écrivait tous les jours, on a énormément de traces sur sa correspondance. Et c'est un petit bijou, les échanges entre lui et Gaston Gallimard, qui, à mon avis, n'en pouvait plus. Et je parle même pas, on n'a pas de traces des imprimeurs, mais je pense que les imprimeurs, eux aussi, ont dû faire des sacrés burn-out, vu le nombre de corrections qu'il apportait. Et voilà, et puis après, ça j'en parlerai un peu plus tard, mais j'ai adoré voir comment il a géré le succès et en même temps l'espèce de grosse shitstorm, comme, pour employer encore un mot à la mode, une tempête de merde qu'il a reçue à la suite de son prix Goncourt. Donc je vais parler de ça par la suite, mais c'est très intéressant, voilà, tous les à côté de l'œuvre. Et j'avais écouté un spécialiste de proustien qui s'appelle Jean-Yves Tadier, qui avait eu cette belle expression, entendre Céleste et vraiment rentrer dans l'œuvre de la recherche par l'entrée de service. Et c'est vrai que c'est exactement ça. Moi, je suis passionnée par la petite cuisine des écrivains, et c'est d'une richesse incroyable, le témoignage de Céleste.